Salut Daniel, salut à toute l'équipe. J'appelle pour vous féliciter pour les émissions là sur les ouvriers de Sochaux. Moi qui suis d'origine franc-comtoise, j'avoue que ça m'a rendu fier quelque part de savoir que cette classe ouvrière de ma région s'est battue comme ça. Merci de m'avoir appris ça, parce que ces événements-là, je n'avais jamais entendu parler. Voilà. Sinon, autre chose, juste pour dire aux auditeurs que hier j'ai relu le contre-feu de Bourdieu, là, le contre-feu 1, c'est très très bon, hein. C'est très 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 bon. Je pense que ça mérite d'être lu par tous les auditeurs, voilà.
Oui, bonjour à toutes et à tous, amis et camarades. Je voulais simplement faire une suggestion à nos élus. C'est que ces deux militants ouvriers assassinés par la police, ce serait bien pour la mémoire et pour leur rendre hommage que quelques plaques de rue rappellent qu'ils ont existé et qu'ils se sont sacrifiés. Voilà, c'est Alain du 9-5. Salut à tous et à bientôt.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier, Mermé, de parler des ouvriers, car c'est le seul avec Sarkozy qui parle sans les regardiser comme l'Argue de l'Aiguillé ou les sublimer comme le Parti communiste. Et dans ce petit reportage, il manque juste un petit truc qu'il aurait dû interviewer un chef d'équipe, car c'est eux qui font la pluie et le beau temps là-bas, et ta capacité d'évolution, elle est liée à ta capacité de leur lécher le cul. Voilà. Merci, au revoir.
Il y eut mai 68, puis il y eut juin 68, et puis il y eut après. Voici le résumé de ces 40 dernières années.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé.
C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui.
À la révolution et à Paris!
Voilà un extrait de Un idiot à Paris avec Bernard Blier. Incroyable Bernard Blier dans ce rôle. Merci à cet auditeur de nous avoir adressé cet extrait. Merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Aujourd'hui, on avait promis de parler des journalistes, des correspondants locaux de presse. Ben, c'est presque ce qu'on va faire, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai évoqué hier. On va parler d'un journaliste hors norme, hors piste et hors caste, qui s'appelle Denis Robert, qui est pas seulement un journaliste, qui est également écrivain. Or, à la surprise générale, ce journaliste qui, vous le savez, depuis des années, depuis plus de 8 ans, enquête et se bat sur le système Clearstream, a décidé brusquement de jeter l'éponge. Il a dit j'arrête, je ne parlerai plus jamais de ça, je tourne la page. Alors, c'est une surprise évidemment. Denis Robert a fait face à une soixantaine de procès, il a pratiquement toujours gagné quelques diffamation, quelques euros versés ça et là, mais il est usé, il se sent complètement usé, esquinté, pris dans ce piège des procédures successives. On avait fait l'an passé, j'ai juste un an, avec François Ruffin, une journée dans la vie de Denis Robert, chez lui, là-bas, dans sa Moselle, en quoi consiste sa vie, la vie d'un journaliste qui fait tout simplement un travail de journaliste, ce qui n'a pas toujours plu à tous les journalistes, même si dans son comité de soutien, il y a plus de 600 journalistes qui avaient adressé des photocopies de leur carte de presse en symbole de soutien. Au point d'ailleurs qu'il avait été imaginé de faire un papier peint avec ses cartes de presse. Donc on peut pas dire qu'il soit tout à fait sans soutien, mais voilà, c'est un combat que nous saluons évidemment, et sa décision aussi, c'est la sienne. Et donc on va passer cette heure avec lui. Au auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37 et quelques nouvelles, bien évidemment, depuis le pays de James Joyce, où il semblerait qu'effectivement le nom soit en train de l'emporter, même si les résultats officiels ne sont pas encore communiqués.
Oui, j'espère que les partis de gauche qui ont voté non au référendum vont se réveiller et puis soutenir l'Irlande. Remercier l'Irlande si le nom passe. Il faut absolument qu'on se mobilise. Comme nous, on s'est fait niquer la gueule, mais que les Irlandais sauvent l'honneur, ce serait formidable. Parce qu'il suffit qu'un pays refuse, hop, le système est bloqué. Et ce serait vraiment formidable. Là, pour une fois, ce serait une bonne nouvelle. Merci, l'Irlande. Thank you. Thank you, Sean.
Bon, donc, oui, bah, c'est bien. Les Irlandais risquent fort de voter non. Ça va faire plaisir à tout le monde. Ça fera surtout plaisir aux curés, n'est-ce pas? Parce que les curés, ils veulent surtout pas que l'avortement devienne légal en Irlande. Ils préfèrent continuer à engrosser les filles et leur filer 100 balles après pour qu'elles aillent avorter en Ulster. C'était un évêque qui s'était rendu coupable, si j'ose dire, de ce glorieux au fait il n'y a pas très longtemps. Donc, merci les gens qui votent non. L'Église catholique pourra les remercier. Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi se battre pour que Franco revienne au pouvoir en Espagne. Ce serait peut-être pas mal, ça aussi. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui vont être contents si les Irlandais votent non et que l'Europe est définitivement dans les choux et que, bon, ok, ça c'est nos amis, les Américains. Ils sont très contents, nos amis, les Américains, de ne pas avoir en face d'eux une Europe qui pèse, une Europe avec un gouvernement européen, une Europe avec un Parlement européen qui a des vrais pouvoirs. Hein, ça leur fait plus que plaisir aux Américains. Donc, aidons les Américains en reconstituant la glorieuse Union soviétique. Salut et prospérité, bande de cons.
Vendredi 13 juin, j'ai une pensée pour nos amis irlandais et je souhaite du fond du cœur que l'Irlande lave l'affront qu'on nous a fait lorsque M. Sarkozy, président de la République française, a renié le référendum sur la Constitution et qu'il l'a fait imposer, et qu'il nous l'a imposé par voie parlementaire. J'espère du fond du cœur que les Irlandais feront parler la raison et ne se comporteront pas comme des moutons. Allez, ciao à tout le monde.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs, c'est la compagnie Joli Monde. Alors excusez-nous, on va être un petit peu long parce que on a un sérieux problème. Michel, notre metteur en scène, passe en procès. La direction nationale de la CFDT l'accuse de violation de domicile. Et oui, vous vous souvenez, pour les intermittents comme pour les chômeurs et les retraites, la CFDT a signé des accords dont on n'était pas content du tout. Nous, depuis 2003, on n'arrête pas de demander un débat public contradictoire parce qu'on a des arguments. Et au bout d'un moment, on a fini par aller à plusieurs centaines au siège national de la CFDT demander à être reçu. Ça s'est passé dans le calme, mais on a surtout reçu une convocation au tribunal. Alors, avant le procès, on a fait un spectacle. Toute une après-midi de procès-spectacle, en fait. Et puis, on n'a pas voulu s'arrêter à notre histoire. Il y en a d'autres, des syndicalistes poursuivis par leurs patrons, des Denis Robert ou des Gilles Lemaire poursuivis par des multinationales, des militants politiques et associatifs harcelés par la justice, des étudiantes accusées de violence par la police. Bref, ça fait énormément de tout petits procès partout. Alors, on a fait comme la garde des Sceaux. Ouais, on a rationalisé tout ça. On optimise la justice. On fait un seul grand procès-spectacle. Le procès du militantisme. Alors, pour ce procès-spectacle, beaucoup de comédiens et musiciens sont venus renforcer la compagnie Joli Môme. Beaucoup de personnalités viennent aussi renforcer le débat en intervenant au cours du spectacle. Dont quelques-uns bien connus de là-bas, si j'y suis. Nicolas Lambert, Henri Malheur, Aline Payet, Michel Collomb, les fils de Tepu, les blaireaux de Ravel, Charles Ouarot, les sans-papiers de Lille, le droit au logement et bien d'autres encore. Tout ça, c'est dimanche 15 juin. C'est au Théâtre de l'Épée de Bois, à la Cartoucherie, à 14h. Et pour ceux qui sont trop loin de Paris, tout est diffusé en direct sur le site internet de Regarde à vue. Enfin, toutes les infos, vous les trouverez sur le site internet de la compagnie Joli Môme. Alors à dimanche tout le monde, soyons nombreux à la Cartoucherie.
Voilà, vous avez bien reconnu, c'est Joli Môme qui vous invite à la Cartoucherie. Donc aujourd'hui, Denis Robert, qui, je le rappelle, je le disais à l'instant, a décidé, il a annoncé ça il y a deux ou trois jours, dans la presse, il a décidé de jeter l'éponge. On va revenir sur cette journée qu'on avait passée avec lui l'an passé dans son coin, là-bas, dans la Moselle, en allant dans un pays voisin qu'il connaît bien, qui est le Luxembourg. Mais auparavant, je voudrais vous faire entendre la déclaration que Denis Robert a faite, qu'on peut entendre sur Internet, et notamment sur le site Bella Ciao. Denis Robert.
Ce texte est ma dernière intervention publique à propos de Clearstream. J'ai pris la décision de ne plus intervenir sur ce sujet, sur Internet, dans les journaux, à la radio, à la télévision, et donc de refuser toute interview liée à la chambre de compensation luxembourgeoise. Cette décision est douloureuse mais réfléchie. Je la prends après ma lourde et incroyable condamnation en diffamation pour un montant de 12 500 euros par le tribunal de Bordeaux, suite à des propos vieux de 2 ans et pas vraiment méchants sur le fonctionnement de cette multinationale qui officie dans plus de 100 pays, dont une quarantaine de paradis fiscaux. Cette condamnation pour laquelle j'ai fait appel intervient le jour de la dernière audience civile du tribunal de Luxembourg, où Clearstream me réclame 100 000 euros en réparation de 421 exemplaires de Clearstream L'Enquête vendus au Grand-Duché de Luxembourg, alors que j'en ai vendu 20 000 en France. Il intervient aussi le jour où le parquet de Paris demande, dans son réquisitoire supplétif, mon renvoi en correctionnel pour recel d'abus de confiance et recel de vol de documents bancaires, en déformant d'une manière particulièrement malhonnête la réalité de mes enquêtes. Je jette l'éponge. C'est une victoire de Clearstream, de ses avocats, de ses juristes, de ses dirigeants, des banquiers de son conseil d'administration. C'est surtout une victoire de la censure. En écrivant Révélation ou La Boîte Noire, aux éditions des Arènes avec Laurent Beccaria, ou en réalisant avec Pascal Laurent et Paul Moreira de Canal+, Les Dissimulateurs ou l'affaire Clearstream racontée à un ouvrier de chez Déhou, je ne pensais pas en arriver à cette extrémité, à ce chaos. Je n'imaginais pas subir ce harcèlement et cette entreprise de déstabilisation. Je suis entré dans un cercle vicieux. Plus Clearstream m'attaque, plus je me défends. Et plus je me défends, plus je prends des risques. Et plus je suis taxé d'obsessionnel ou d'autres qualificatifs qui ne correspondent pas du tout. Je me suis battu pendant 20 ans pour la construction d'une justice européenne. J'ai toujours écrit pour informer l'opinion et le public de l'intégration croissante du crime organisé dans les circuits financiers et les processus de décision de nos sociétés mondialisées. Depuis mon travail à Libération, à la rédaction de l'Appel de Genève, ou par mes autres livres et mes autres films, j'ai essayé d'informer le public de ce qui se passait dans les coulisses du pouvoir et de la finance clandestine. Et la partie est devenue trop dure et trop inégale. J'ai passé des centaines d'heures à filmer des témoins, à recouper des informations, à éplucher des listings de comptes, à forcer les barrages des secrétaires et des attachés de presse, à envoyer des lettres recommandées, à questionner les banquiers ou les PDG. J'ai toujours évité les compromissions. Quand beaucoup de mes détracteurs, parmi les journalistes, ne connaissent du travail d'investigation que les rendez-vous avec les commissaires des RG, de la DST ou avec les avocats. J'ai réalisé une enquête de première main, avec des dizaines de témoins différents. C'est 8 ans de ma vie. Nous avons remporté de belles victoires, repoussé plusieurs dizaines d'assauts de banques russes, luxembourgeoises ou de Clearstream, devant des tribunaux français, belges, canadiens, suisses ou même à Gibraltar. Mon blog est surveillé. Chaque jour, le chargé de communication de la firme s'y connecte et fait son compte-rendu aux avocats, aux juristes. Ce dernier message est d'abord pour eux. Voilà, maintenant vous allez gagner du temps, plus la peine de se connecter tous les jours. C'est la dernière fois que vous aurez à lire mes petites réflexions. Comment dites-vous déjà, obsédé, falsificateur, conspirationniste, entendre et lire ces mensonges à longueur d'assignation a fini par me lasser. Vous voulez me détruire et me ruiner. Vous vous servez de tout ce qui traîne pour me faire une sale réputation. Vous y parviendrez peut-être ou peut-être pas. Vous vouliez que je me taise, je me tais. Ce qui est paradoxal à l'heure où la jurisprudence européenne tient les journalistes pour les chiens de garde de l'information. Et où Millennium triomphe en librairie. 1 million de lecteurs se passionnent pour cette trilogie et les inventeurs de Blomqvist en but à la délinquance financière. Dans la vraie vie, les Blomqvist ont des enfants, des fins de mois difficiles et des moments de blues. À tous ceux qui m'ont accompagné dans cette enquête, aux centaines de journalistes qui ont envoyé un message ou leur carte de presse en soutien, aux magistrats spécialisés qui ont écrit des attestations en ma faveur, aux députés français et européens qui ont soutenu ce travail, aux 300 000 internautes qui ont suivi ce blog, au comité de soutien qui s'est formé pour m'aider et payer mes frais de justice. Je dis merci, je dis aussi continuer. De nombreux procès restent en suspens et une commission d'enquête parlementaire européenne est toujours possible. Pour ce qui est de ma défense, je vous invite à régulièrement jeter un œil sur le blog de soutien. Je dis tout ça sans amertume. Simplement, à un moment donné, le monde a glissé autour de moi et ce qui était possible encore il y a quelques années, il n'est plus. Voilà. J'en ai fini, camarade. Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais ?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça.
Moi, j'ai écrit un slam, ça s'appelle « Voleurs de foule ». La justice, elle fonctionne pour gauler les voleurs de poule, jamais les voleurs de foule. Et ici, on est dans des boîtes qui... C'est des voleurs de foule.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Denis Robert, voleur de poule, voleur de foule.
Flight number 2, arriving from New
York. Les avis d'huissier, ils sont... j'en ai une partie là, et l'autre partie, les plus récents, sont dans le tiroir. Là. Cour d'appel de Paris... Cour supérieure de justice du Luxembourg, TGI de Paris. Ça, c'est le truc de la cour de casse qui est tombé. Ça, c'est une facture d'huissier. Ça, c'est le truc du mois écoulé, on va dire, de 2 mois, peut-être.
Un tiroir, c'est 2 mois de procédure.
Bah, celui-là, ouais. Là, ces 2 derniers mois, c'est tombé assez régulièrement, quoi.
Mais ça, c'est quoi, ça, alors ?
Ça, c'est un tableau de... Je m'assois parce que j'ai mal au...
Vas-y.
Ça, c'est un tableau de Philippe Pasquier, mon copain. Enfin, moi, j'étais obsédé par l'idée de comment rendre compte de cette censure. Et donc, l'idée, c'était de faire un bureau. L'idéal eût été de prendre ce bureau-là, qui est mon bureau, de mettre dessus le fruit de ces 5 années d'enquête, avec tous mes documents, avec un ordinateur, et derrière ce bureau, d'édifier un mur qui fasse 6 mètres de haut, au moins. Je tapissais le mur d'avis d'huissier, de lettres commandées, de tout ce que j'ai eu depuis 4-5 ans. Et j'ai de quoi en faire sur 1,50 m, de le monter à 6 mètres, tellement il y en a. Pour montrer l'écrasement et la difficulté quand tu travailles sur ces sujets-là, comment on essaie de te faire taire et de te faire plier, la pression des procès. Par exemple, les Russes de la Ménatep, quand ils m'ont attaqué, comme ils m'ont attaqué dans 7 pays, et que j'ai 2 films et 2 livres, il y a 28 procédures. Donc, 28 fois, tous les 3 mois, pendant 5 ans, j'ai eu des avis d'huissier de la Ménatep. À côté de ça, bon, il y a Clearstream, il y a tous les procès que me fait Clearstream en France, en Belgique, au Luxembourg. Il y a toutes les plaintes en diffamation qui ont été déposées contre moi. Et puis, il y a tous les procès que m'ont fait Fortis et la Banque Générale de Luxembourg. Et puis, il y a l'État luxembourgeois qui est le, finalement, si tu prends tous les adversaires que j'ai aujourd'hui, avec Clearstream, c'est l'État luxembourgeois qui est le plus vindicatif à mon égard, et le plus violent et le plus agressif.
Et le mur, ce mur de 6 mètres de haut, ce mur qu'on peut pas franchir, couvert d'avis d'huissier et de procédures et tout ça, c'est aussi le mur contre lequel tu te heurtes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, c'est pour montrer aux gens, parce que c'est pas le coup de le dire. Quand tu vois les lettres, quand tu vois la quantité de choses et tout, tu te rends compte de ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui dans ce pays, quoi.
Qu'est-ce que vous ne devez pas comprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous allons vous dire pour vous distraire, pour vous détourner de l'essentiel, pour vous éloigner des manettes de votre propre destinée ? Qu'est-ce que nous avons encore trouvé pour appliquer notre politique ? La politique au sens où l'entendait Paul Valéry. La politique, disait-il, est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Eh ouais, c'est ça, notre boulot. Bien sûr, vous ne trouverez personne pour vous dire ce que je vous dis là, aucun journaliste en tout cas. Et pourquoi ? Bah parce que les journalistes sont de braves gens, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils s'appliquent, faut pas leur en vouloir. Et puis la plupart du temps, ils n'en savent rien. Ils vous parlent de choses qu'ils ont lues. Ne croyez pas qu'il y a un complot, une grande usine quelque part, sous la terre, où l'on fabriquerait de la désinformation. L'usine a désinformé, peuplée par les bourreurs de mou. Bien sûr que non, pas besoin. Ça, c'était bon au temps de Staline ou au temps de notre ministère de l'information, par exemple. Non, non. Aujourd'hui, plus la peine, tout ça est parfaitement intériorisé. Le dressage est réussi et on pense ce qu'il faut penser, on dit ce qu'il faut dire, on fait ce qu'il faut faire, comme tout le monde. On pense, on dit, on fait comme tout le monde. Et mais penser quoi d'autre ? Hein ? Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre ? Ben, voilà un gars qui pense autrement. Denis Robert est une exception dans cette profession. Il y en a d'autres, quand même. Il faudrait qu'on en parle, d'ailleurs, un jour, des exceptions dans cette profession. Il a fait un pas de côté, il y a déjà pas mal de temps. Et lui, tout seul, ou presque, il a essayé de s'attaquer à l'essentiel. Il a essayé d'aller au cœur même du système actuel, c'est-à-dire un mot pour ce qui le concerne, Clearstream. Qu'est-ce que c'est que Clearstream ? Ben, on va essayer de comprendre au cours de cette heure, à travers le combat de cet homme quasiment seul derrière ces piles d'exploits d'huissiers et de commandements de toutes sortes et de convocations de toutes sortes, cet homme qui se bat et qui a fini par émouvoir un petit peu quand même, et à travers ses bouquins, à travers son action, à travers ses interventions, et si bien qu'il a aujourd'hui un comité de soutien que vous pouvez rejoindre. Il y a une pétition de soutien à Denis Robert. Il fait face quand même à des dépenses que vous pouvez imaginer. C'est pas la seule raison de cette heure que nous passons ensemble. L'important pour nous, c'est d'ici à 16h, de parvenir à faire la différence entre les voleurs de poules et les voleurs de foule.
On a beaucoup chanté les courageux, les prêts à tout qui marchent le front haut vers les dangers sans trembler d'un cheveu. Fiers ces gaillards à l'ombre d'un drapeau, on n'a jamais chanté tous les peureux, les toujours prêts à se faire la valise. Alors chantons, ne soyons plus honteux, les tailleurs de route qui se font la cerise. Debout, compagnons de la foudre, faisons parler la poudre. Non, poudre à nous, pas la poudre qui bête, la plus jolie, la poudre des scampettes. Dans l'héroïsme, l'avenir est couché, et de la gloire, refusons les délices. Brave par hasard, jamais par intérêt, peu de héros ont fait des bénéfices. Unissons-nous, tous les lâches mes frères, et crions fort notre droit d'exister. Sommes des moitiés mi-révolutionnaires, car nous faisons rarement un tour complet. Debout, compagnons de la foudre, faisons parler la poudre. Notre poudre à nous, pas la poudre qui pète, la plus jolie, la poudre des scampettes.
Clearstream, c'est un peu la banque des banques. Elle permet aux professionnels du secteur financier non seulement de s'échanger des valeurs, mais aussi de garantir des prêts et des emprunts. En principe, ces professionnels, ces clients, ce sont des banquiers. Clearstream a été créé par eux et pour eux dans les années 70. À son conseil d'administration siégeaient en 2001 les plus grandes banques de la planète. Clearstream est un outil indispensable, une caisse enregistreuse et une pompe à finances. Ceux qui l'utilisent et qui la dirigent, ce sont les banquiers. Ces mêmes banquiers, on les retrouve actionnaires ou créanciers des multinationales.
C'est ça la cuvée de Nirobert.
Alors il y a les cartons posés.
Blanc, en fait. Rouge et rosé.
Vous en sortez une bouteille ?
Ouais, sûr. Avec une étiquette collector de pétillons pour le rosé, que voilà, cuvée Denis. Dites, monsieur le conseil général, je sors la TVA sur votre fausse facture.
Voilà, voilà, voilà comment ça se passe. Alors, on avait commencé une émission sérieuse, avec des grands principes et des grands sentiments, et puis c'est déjà le pot de vin. Le gars qui parle, là, c'est Rémi Malingret, qui est un dessinateur, dont vous connaissez peut-être pas sa signature, mais en tout cas ses dessins, et qui s'occupe du comité de défense de Denis Robert. Là, il y a en l'occurrence un dessin de Pétillon, dont vous admirer les dessins dans le Canard Enchaîné chaque semaine, etc. Et bah oui, il faut le soutenir, le Denis Robert, parce que il est quand même il y a des choses très graves dans le monde, peut-être encore plus graves que ça, c'est bien possible. Mais enfin, c'est là nous préoccupe aujourd'hui.
Alors, dans mon désordre organisé, est-ce que je vais les retrouver? Oui. Classeur Excel qui va s'ouvrir, ça prend un peu de temps parce qu'ils sont lourds. Et là, tu vas trouver plein de trucs dans les paradis fiscaux. Tu vois, là, il y a un compte à Nassau, aux Bahamas. C'est quoi ce truc? Pictet International Limited.
De les îles Caïmans, là. Georgetown.
Ouais.
Nassau. Les Bermudes, en dessous. Hamilton aux Bermudes.
Ouais.
Tu fais du tourisme, toi, avec les listings. Ouais, tu vas vachement, visites vachement d'îles ensoleillées. De ta Lorraine, du Luxembourg, tu visites toutes les îles ensoleillées du Pacifique.
Tiens, Georgetown, ouais.
Les îles Caïmans.
Regarde les noms. Tu vois, Flendeling. Nominis. Nominis, c'est nom, mais ça veut dire nominis, ça veut dire que c'est un prête-nom, ça. Enfin, il y en a 33 000 comme ça, hein, donc... des fois, les soirs, quand je me fais chier, je regardais ça, il y a presque une poésie. Regardez tout ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. C'est quoi cette société à Nassau? C'est pas en allant à Nassau que tu auras les renseignements. C'est chez Clearstream que tu les as. C'est dans leurs ordinateurs. Mais eux sont protégés par l'État luxembourgeois, qui vient me faire chier, moi, quoi. Je peux fermer.
Il y a le chien de garde, c'est ça?
Hein?
Il y a le chien de garde, pour les huissiers, ouais. Des boules.
Mais le chien, elle s'appelle Lily. Elle est très... elle n'aime pas les huissiers. La dernière fois, d'ailleurs, j'ai une fille de 13 ans. Elle était à la maison et le type lui a dit « Ouvre la porte, sinon ton père peut aller en prison. » Ils utilisent des méthodes comme ça, des fois. Parce qu'il fallait qu'ils remettent un acte et ça les fait chier de revenir. Et... J'y vais, hein? Dès que je rentre, je t'appelle.
Alors, pression, intimidation, un minuscule David face à cet énorme Goliath, Denis Robert. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il se penche sur Clearstream, qu'il prononce ce mot aussitôt, une avalanche de pression, de manœuvres d'intimidation, de poursuites et de procès. Mais il se pourrait bien que, au-delà d'enquêtes, d'analyses, de dénonciations, de dévoilements, après tout, il n'est pas le seul, au cours de ces années dernières, il y a quand même pas mal de choses qui ont été découvertes, et puis bon, l'autruche capitaliste, vous le savez, est capable de tout bouffer. Mais là, dans ce cas-là, il y a quelque chose visiblement qui passe de travers. Et ce qui passe de travers pourrait bien être que Denis Robert ait découvert, mis à jour, que la mondialisation financière est régulable. On présente les choses depuis longtemps comme quelque chose d'absolument incontrôlable, on ne peut plus rien faire, c'est plus fort que nous, il faut s'adapter, il faut se soumettre à cet ordre. Et il se pourrait bien que ce soit cela qu'il ait mis à jour et qui gêne tant cette hyperpuissance occulte ou qui cherche à ne pas faire parler d'elle, à ne pas se montrer au grand jour. Le point de vue de Dominique Plion, qui est économiste et président du Conseil scientifique d'attaque.
Dominique Plion, est-ce que pour un économiste, il y a eu, à travers les livres de Denis Robert, est-ce qu'il y a eu des points du fonctionnement de l'économie contemporaine qui ont été plus clairement mis en lumière?
Oui, ben, ce qu'a fait Denis Robert en particulier, c'est de montrer avec force et avec détail que Clearstream, c'est-à-dire une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, qui est une société privée, avait un rôle extrêmement important et stratégique pour le fonctionnement des paradis fiscaux. Clearstream, c'est un écran, c'est un moyen de mettre de l'opacité pour pouvoir faire en toute tranquillité n'importe quelle opération, donc pouvoir détourner de l'argent, pouvoir faire de la fraude fiscale, pouvoir faire du blanchiment d'argent. Et évidemment, les gouvernements luxembourgeois, britanniques et les opérateurs privés sont opposés et ils sont furieux d'enquêtes comme celle de Denis Roubert, parce que ça montre au grand jour où est le problème.
L'une des surprises avec Clearstream, au-delà des dysfonctionnements, au-delà des scandales, c'est de découvrir que finalement cette finance internationale qui était représentée comme d'abord immatérielle, ne laissant pas de traces, n'ayant pas de mémoire, étant décentralisée, en fait pouvait s'avérer extrêmement centralisée, avec des traces, avec une mémoire, et donc contrôlable.
Exactement. C'est le système financier bancaire international est extrêmement centralisé. Aujourd'hui, une chambre de compensation est un endroit névralgique, une espèce d'aiguillage, en quelque sorte, vers lequel transite une grande partie des flux financiers. Vous avez, je le disais, pour les marchés d'échange, qui est le plus grand des marchés, hein, c'est les marchés où les monnaies s'échangent les unes contre les autres. Il y a à peu près 10 banques, qui sont toutes anglo-saxonnes d'ailleurs, qui contrôlent 90% du marché. Et donc, il y a non pas une décentralisation, mais en fait une concentration des opérations financières entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a la volonté politique, on sait très bien où aller pour détecter les flux, pour les repérer et pour les réglementer, voire pour les interdire.
Non, non, on est sur l'autoroute, là, il y a plein de monde. T'as pas le siège auto, mais... Ouais, mais non. J'ai oublié de le laisser à la maison. Là, j'ai un micro sous le nez, donc tout ce que je dis, c'est enregistré, je te signale. Ouais, bisous, à tout à l'heure.
Donc les héros ont aussi des problèmes de siège bébé.
C'est ça.
Là, on roule en Jaguar. entre Metz et le Luxembourg. Ouais.
Non mais la Jaguar, c'est un plan avec un copain, c'est une Jaguar d'occasion, mais que mon voisin Jean-Marie a retapé. Mais c'est assez classe d'avoir une Jaguar et un comité de soutien.
Là, c'est une route que tu prends souvent pour aller au tribunal du Luxembourg.
Quand je vais au tribunal, ça doit être la cinquième ou sixième fois que je vais aller à Luxembourg. J'étais entendu par une juge d'instruction déjà deux fois, j'étais convoqué une fois, donc... mais c'est une route que j'ai prise souvent quand je faisais mon livre ou quand je faisais mon enquête, quoi. Mais là, on va à la cour d'appel, donc je suis jamais allé à la cour d'appel. On va innover. Et au Luxembourg, c'est le pays du guet-apens. Parce que quand tu vois les procédures qu'ils ont montées contre moi, c'est à se taper la tête par terre, quoi. Et ça, c'est une procédure au Luxembourg, j'en ai cinq ou six autres.
Et moi, quand j'ai un procès, ça m'arrive encore. Quand j'ai un procès, ma mère, elle me fait me raser, elle me fait mettre une chemise blanche. Toi, là, t'es pas rasé, t'as une veste de jean noire. Ça va pas, ça?
Non, mais je vais pas.
Ma mère, elle serait pas contente. Hein.
Ma mère non plus, d'ailleurs. J'irai jamais me déguiser pour me faire bien voir devant un tribunal.
Il y a une fatwa sur le peigne aussi ou pas?
Pourquoi, là, ça? Peut-être. Je perds mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Enfin, non, je les perds plus, là, mais j'ai jamais eu. Ne serait-ce qu'une seconde, l'idée que j'allais les abattre ou que Clearstream allait fermer ses portes. Quoi. Ils ont fait 18,7 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, en augmentation de 14%. Ils ont des filiales dans plus de 100 pays, dans 130 pays du monde. Ils viennent d'ouvrir des bureaux au Japon, en Arabie Saoudite. Ils sont richissimes. Ils viennent de prendre tout l'argent des Russes. Tout le fric des Russes sont rentrés dans Clearstream, donc. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ils ont une communication, c'est comme un rouleau compresseur. Et ça, ça coûte des ronds, quoi, l'avocate. C'est 5000 euros.
T'as calculé combien ça te revenait depuis le début de toute cette histoire?
On doit être à, je sais pas, je vais dire 200 000 euros. Mais moi, personnellement, j'en ai pas dépensé. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est ça la vraie censure. C'est une censure économique. Moi, j'hésite. L'autre jour, je sais plus, quelqu'un m'appelle,
faire une interview là-dessus. Je dis, puis dans, en moi, je me dis, putain, si je commence à dire, alors que si je dis que Clearstream, c'est un poumon de la finance parallèle, je peux le prouver, j'ai les listings avec les comptes ouverts dans les paradis fiscaux, etc. Mais ils vont attaquer en diffamation. S'ils attaquent en diffamation, et je gagne en première instance, je gagne en appel, ils se foutent en cassation, donc je suis à nouveau dans un circuit comme ça, quoi.
Donc là, on franchit la douane, là, on passe au Luxembourg ici.
Ouais.
Traverser le rond-point, deuxième sortie.
C'est un pays que j'aime pas. Hein. Ces gens-là savent très bien qu'ils fonctionnent, qu'ils ont fonctionné sur l'argent du crime, parce que toutes les mafias du monde et ont des comptes ouverts ici. Et c'est ça qui enrichit les gens, quoi. Tout le monde à Luxembourg a une femme, une sœur, un frère qui travaille dans une banque.
Poumon de la finance parallèle. Voilà où sont nos deux héros, Denis Robert et François Ruffin. On va voir Jean Maillard. Jean Maillard aussi a un point de vue sur le travail de Denis Robert. Jean Maillard est magistrat.
Jean Maillard, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la criminalité, notamment la criminalité financière, avec Un monde sans loi. Vous avez, au moment de la publication de Révélations, vous avez été l'un des signataires avec Ligeia Vajoli, avec Renaud Van Ruydbeck pour la France, avec Bernard Bertossa, qui était procureur à Genève, avec un procureur également à Bruxelles. Vous avez été l'un des signataires d'une tribune, pour ainsi dire, de soutien à Denis Robert, d'une tribune qui disait qu'il y avait un certain nombre de vérités dans Révélations.
Oui, l'enquête de Denis Robert, qui était argumentée, qui s'appuyait sur des témoignages d'insiders, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui avaient non seulement travaillé au sein de Clearstream, mais qui avaient eu des responsabilités dans cet établissement financier de premier plan, et qui dénonçaient elles-mêmes des mécanismes frauduleux qui auraient été mis en place par Clearstream, donner de la crédibilité, une crédibilité très importante à l'enquête de Denis Robert, qui n'a pas été entendue. Donc, le soutien qui avait été apporté par les magistrats à Denis Robert consistait à dire qu'il serait important de pouvoir poursuivre le travail qu'il avait fait en tant qu'investigateur, ce travail devrait être poursuivi par des investigations publiques avec les moyens dont pouvaient disposer les puissances publiques, ce qui n'a pas été fait.
Vous demandiez en tout cas, un certain nombre de magistrats français, belges et suisses demandaient à ce qu'il y ait une enquête de lancer sur Clearstream, sur les chambres de compensation. À la place, les enquêtes qu'il va y avoir, les procès qu'il va y avoir, vont être à l'encontre du journaliste qui pose ces questions.
Oui, effectivement, c'est l'histoire, comme dans la chanson de Béart, du premier qui dit la vérité, qui doit être exécuté. Très vite, la justice luxembourgeoise a ouvert une information judiciaire, mais très vite, il est apparu aussi, je dirais pour les professionnels qui connaissent un petit peu la musique, que en fait, le but des autorités judiciaires luxembourgeoises était en réalité de sauver le soldat Clearstream, en quelque sorte, parce que Clearstream est un élément essentiel de la richesse financière du Luxembourg, et qu'il ne pouvait être question de déstabiliser l'industrie financière au Luxembourg.
Moi, je me demande si, à la limite, Denis Robert n'est pas plus poursuivi, moins pour ses dénonciations que, à la limite, pour les solutions quasiment qu'il propose. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très positif. Alors qu'on croyait qu'on avait une mondialisation financière qui était incontrôlable, où on avait des flux financiers qui étaient sans trace, où c'était complètement dématérialisé, donc on pensait que c'était impossible de contrôler quoi que ce soit. Là, il vient dire, regardez, entre Clearstream et Euroclear, entre deux chambres de compensation, on a l'essentiel des mouvements financiers internationaux de la planète. Ça se chiffre en dizaines, en centaines de milliards quotidiens. Donc là, si vous voulez agir, il y a ce point-là sur lequel vous pouvez agir. Et finalement, c'est comme si il fallait surtout pas qu'on discute de ça.
Je pense qu'on a voulu faire payer à Denis Robert sa ténacité, et surtout peut-être que ça serve de leçon, de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'autre Denis Robert.
peu, moi. C'était au numéro 42.
La Kirstream, c'est là.
Mais il y avait avant, il y avait au centre-ville, ils avaient un des plus beaux immeubles de Luxembourg. Avec, en grosses lettres, Clearstream, on le voyait la nuit, quoi. Puis évidemment, après mes bouquins, les lettres ont rapetissé, puis à un moment donné, l'enseigne a disparu et l'immeuble a été vendu. Et ils ont repris des immeubles de verre.
C'est à peu près la Défense, mais qui serait en dehors de la ville, quoi. C'est-à-dire des bâtiments de verre, un alignement de bâtiments de verre.
Des petites œuvres d'art, un peu comme ça. On dirait du Niki de Saint-Phal, tu sais, ce genre de... Mais c'est quand même assez déshumanisé, comme quoi.
Ah, c'est la zone industrielle, sauf que c'est une zone bancaire, quoi.
Ouais. Attends, je peux tourner, là? Putain, non, j'ai jamais le droit de tourner. Pour ces financiers qui vivent dans une espèce de vase clos coupé du monde, et c'est là qu'est l'argent de toutes les sièges des... Derrière ces façades, c'est une espèce de coffre-fort planétaire. Mais comme l'argent est aujourd'hui électronique, tout est dans des disques durs d'ordinateur. Et puis tu croises des types comme ça, habillés en costard, enfin tu les vois qui...
Mais avec tout ce fric-là, ils n'ont pas réussi à se construire un beau monde, parce que ça pourrait être un beau monde à part, mais là c'est pas... Mais ça fait banlieue, quoi.
Ça fait banlieue. Là, il y a une galerie d'art, tu vois, je veux dire, moi je serais artiste, je chierais la honte d'aller exposer là-dedans, quoi. Mais les Luxembourgeois ont plutôt des goûts de chiottes en matière d'art, mais ils ont plein de pognon. Donc ils investissent dans des trucs. Je crois bien que c'est ça, Clearstream, non? Je suis pas sûr.
Il y a un immeuble de 5-6 étages, là où on est à l'arrière, on aperçoit les gens dans une cafétéria. C'est la cafétéria du Deutsche Börse Group. C'est la cafétéria de Clearstream. T'es déjà allé manger à la cafète, c'est bon?
Non, je suis jamais allé manger à la cafète.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Je suis contacté par un jeune luxembourgeois qui s'appelle Marco Marthe, qui était le fils d'un député, et qui va me présenter un type qui s'appelle Bacchus. Et au contact de Bacchus, je me rends compte que, contrairement à tout ce que j'avais cru, et à tout ce qu'on m'avait fait croire, et à tout ce que me racontaient les juges, il y avait une traçabilité de l'argent. Il y avait donc une mémoire de l'argent. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle. Et donc, je découvre ces espèces de boîtes qui s'appellent les chambres de compensation. J'entends parler de clearing, je savais pas ce que c'était, moi. Et Van Orenbeek et Eva Joly, ou tous ces juges qui aujourd'hui peuvent parler de ça, ils savaient pas ce que c'était non plus, quoi. D'abord, c'était un travail de comprendre, et de comprendre qu'il y avait une mémoire de l'argent, qu'il y avait une centralisation de l'information, que l'argent était complètement dématérialisé, mais qu'à un moment donné, la dématérialisation voulait pas dire l'absence de traces.
Qu'est-ce qui se passe derrière ces parois de verre, là, où on voit des gens qui travaillent, des gens qui s'amusent à la cafétéria? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation?
C'est un organisme financier qui fait le lien entre toutes les banques et tous les organismes financiers de la planète. Je comprends que c'est un nœud essentiel de cette finance internationale, et surtout je comprends un truc, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Par exemple, quand il y a eu la crise en Argentine, c'est Clearstream qui a communiqué au nom des banques de la planète. Si il y avait eu des outils indépendants de contrôle de Clearstream, on aurait pu prévenir la crise argentine. C'est dingue, mais c'est vrai.
Si jamais on voulait contrôler la finance internationale, là, il y a un point sur lequel il faudrait faire peser toutes les instances de contrôle.
Voilà. Les paradis fiscaux sont des leurres. Ça sert à rien d'aller à Jersey, d'aller à Guernsey, d'aller à Andorre, d'aller à Monaco, même d'aller à Caïman pour retrouver des traces d'argent. Toi, juge, ou toi, journaliste, tu vas aller à Caïman, tu vas trouver des cacahuètes, tu trouveras jamais rien. Par contre, où est-ce que s'inscrit la propriété de cet argent? Eh ben, c'est dans les sociétés qui vendent. Et cette société, c'est Clearstream ou Euroclear.
C'est minable comme musique, c'est vrai. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour illustrer les paradis fiscaux. Ça, c'est un paradis fiscal, enfin, d'après Yann Chouquet et Coyen Nguyen. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire, vous voyez, Cocotier, Lagon, un endroit où on s'emmerde profondément. Ce qui est frappant, peut-être, avec ces riches et ces enrichis qui souffrent de cette terrible pathologie du profit, c'est leur profond manque d'imagination, manque de culture, manque d'ambition. À part l'argent, gagner de l'argent, entasser de l'argent, mais c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien au bout et cette galerie d'art là que nos deux oeufs trouvent à Luxembourg, je suis sûr que c'est des toiles pitoyables, mais ils s'en foutent parce que, enfin ceux qui achètent ces choses-là, parce que c'est uniquement pour spéculer et c'est encore pour faire du pognon. Tout ça, ce serait simplement amusant ou désolant tout au plus, sauf qu'évidemment, ça n'est pas sans lien avec la marche du monde, les inégalités et les souffrances de certains. Pour en savoir plus, Denis Robert a travaillé avec Ernest Bocuse, qui était l'ancien numéro 3 de Clearstream et qui nous parle.
Ernest Bocuse, là on vient de sortir du tribunal, ça a duré à peine un petit quart d'heure. Vous avez été numéro 3 de Clearstream, donc vous avez été un personnage important au Luxembourg, vous voulez dire ?
Oui, oui.
Si jamais il y a tant de procès qui sont mis en place par la justice luxembourgeoise, par Clearstream, par des banques, y compris des banques russes, c'est parce qu'on là on a touché à un point névralgique de la finance.
Ça, c'est certainement le cas. Il faut dire que les tribunaux et la haute politique sont sous pression des milieux financiers, les plus hauts milieux financiers et politiques, je dirais, du monde entier, pour nous abattre, pour que finalement on n'arrive pas à discuter sur le fond de l'affaire. Mais je peux vous assurer que sur le fond de l'affaire...
C'est quoi le fond de l'affaire pour vous ? C'est qu'il y ait des comptes non publiés chez Clearstream, que Clearstream puisse servir de plaque tournante de la finance occulte ?
Oui, on peut blanchir de l'argent sur un compte publié aussi bien que sur un compte non publié.
Et vous, vous dites que Clearstream est l'une des plaques tournantes qui permet de blanchir cet argent ?
Oui, oui, c'est ce que j'ai en somme toujours dit. Bien qu'ils ne soient pas les blanchisseurs, hein, les blanchisseurs restent les membres des systèmes qui utilisent le système pour blanchir.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont la machine. Ils ont la machine à blanchir, mais c'est pas eux qui blanchissent.
C'est ça.
C'est comme un pressing et chacun vient laver soi-même son argent.
C'est exact. C'est exact. Mon idée n'était pas de désigner Clearstream et les autres chambres de compensation transfrontalières comme des blanchisseurs, mais pour des gérants de machines à laver.
Et donc vous dites finalement s'il y avait un endroit où on pouvait commencer à contrôler la finance internationale, ça serait par ces chambres de compensation, d'abord par Clearstream par exemple.
Oui, oui, oui. Donc, ils insistent pour nous ridiculiser, Denis Robert et moi-même, pour nous pousser dans un rôle de farfelu et de je ne sais pas quoi encore.
Ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de comprendre comment tout cela fonctionne. C'est ce que fait Denis Robert depuis déjà longtemps. Ça lui coûte ce que vous entendez. Il a réalisé plusieurs films, dont Les Dissimulateurs, que je vous conseille, et L'Affaire Clearstream, racontée à des ouvriers de Diwu. Ça étonnera pas trop les auditeurs de là-bas si je suis qui connaissent cette histoire de Diwu que nous avons racontée. Donc L'Affaire Clearstream, racontée aux ouvriers de Diwu. C'est un film de Pascal Laurent dans lequel on voit Régis Impel, que voici.
Oui, moi j'étais vice-président de la société, hein. J'étais responsable de l'informatique et de toute la production, quoi. J'avais quand même plus que la moitié des gens qui travaillent à ce moment à Cédal étaient sous mes ordres. Plus que la moitié.
Lui, physiquement, il prenait, il manipulait les programmes informatiques et il effaçait des transactions sur des montants qui ont compté en dizaines, voire centaines de millions.
De dollars. C'est dans le temps, ce que mon papa, peut-être que je me gourre, mais c'est dans le temps où moi j'étais là, c'était entre 50 et 60 milliards de dollars par jour que ça tournait.
50 à 60 milliards de dollars par jour.
Par jour que ça tournait.
C'est-à-dire c'est une transaction qui avait existé, mais dont il fallait effacer les traces.
Les traces, oui. Avec deux instructions dans un programme, c'est bête. Read, write, fini. Hein. Pour nous, c'était de la routine. Je dis toujours pour nous, en informatique, c'était de la routine. Hein.
Mais ça vous paraissait louche, alors ?
Je m'étonnais, quoi.
Et pourquoi on vous demandait d'effacer ces transactions, alors ?
Ouais, pour pas retrouver de traces que ça vient.
Parce que ça peut venir de où ?
Là.
Ça peut provenir de partout, quoi.
T'es un trafiquant de drogue, un trafiquant d'armes, t'es un fraudeur du fisc, t'as pas envie de... Voilà, c'est le moyen le plus absolu de ne jamais retrouver la trace de l'argent. On est dans le point aveugle de la finance internationale. Après, même le meilleur enquêteur de la Terre, le meilleur informaticien, il n'arrivera jamais à retrouver la trace de l'argent. T'as l'argent qui arrive et tu sais pas d'où elle vient. Donc c'est en prévision de futures enquêtes, ou c'est infusible dans la chaîne des transferts d'argent. À ce moment-là, il y a un endroit où il y a une rupture et on retrouvera jamais la trace.
Pour moi, il y a une volonté très précise des institutions de ne pas contrôler Clearstream. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des contrôles.
Les institutions, c'est les institutions financières internationales et les institutions luxembourgeoises.
Je pense que le gouvernement est plus haut pour contrôler une firme pareille. Il faut quand même qu'on contrôle ça. Et on ne contrôle pas.
Finalement, c'est ce nœud qu'on devrait le plus observer au niveau de la finance internationale. C'est lui.
De contrôler, ce serait facile. Hein. Ce serait très facile de contrôler. Hein.
C'est lui qu'on devrait le plus contrôler, le plus observer. Ouais. Et c'est celui qu'on contrôle et qu'on observe le moins.
Ouais. Et c'est facile de mettre des trucs de contrôle. C'est très facile de le faire.
Et donc, ça veut dire que, par exemple, vous connaissez le mouvement ATTAC ou pas ?
Oui.
Oui. Mais quand ils disent qu'on peut réguler la finance internationale, qu'on pourrait mettre une taxation sur les capitaux, finalement, si on observait ce qui se passe à Clearstream, vu que c'est par là que tout passe, on pourrait le faire par là.
Très facilement. Très, très facilement, encore une fois.
C'est d'autant plus évident qu'il ne faut surtout pas qu'on en commence à en avoir l'idée, alors.
Voilà. C'est parce que tout est informatisé. Il suffit de mettre quelques petits... programme de contrôle là-dedans qui serait contrôlé par des institutions indépendantes, gouvernementales ou autres, je m'en fous, mais c'est très facile à faire. Et c'est pas voulu. Je peux me l'expliquer comme ça, c'est pas voulu de le faire. Mais le gros problème pour les gouvernements, pour tout le monde, c'est ces sommes énormes. Du marché de la drogue, du marché des armes. Comment faire rentrer cet argent-là à nouveau dans le circuit normal des affaires? C'est ça le gros défi.
Et donc, comment on fait pour faire rentrer cet argent dans les circuits financiers normaux? L'argent de la drogue, l'argent des armes?
Et avec Clearstream, mais on utilisait ces chemins-là, il y a moyen de faire.
Et quand vous étiez à l'intérieur de Clearstream, vous étiez la seule personne à penser que ça servait à faire du blanchiment? Ça pouvait servir à faire du blanchiment? Ou bien c'était un avis qui était partagé par quelques-uns de vos collègues?
Bah, disons, tout le monde savait. Moi, j'étais l'exécutant, mais... Il y avait en haut, disons, en haut de la production, il y avait des gens qui savaient mieux que moi. Hein.
Et les ordres, ils venaient directement de la direction?
C'est directement d'en haut. Hein. Pour moi, Clearstream est le meilleur moyen de blanchir.
Et quand vous dites ça aux banquiers, quand vous dites ça aux magistrats luxembourgeois, quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on vous répond?
J'ai dit aussi toujours, on est un très petit pays ici au Luxembourg, et ça j'avais dit à CNDD, à un moment donné, ici, c'est fini. Luxembourg, c'est tabou. Hein. Ça, c'est...
Parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont liés à la banque. Oui. Le pays vit sur la banque. Donc finalement, si on met en cause Clearstream, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied.
Dans les deux pieds. Dans les deux pieds.
Eh bien, de tout cela, donc, Denis Robert ne parlera plus. Ce que vous venez d'entendre, c'était il y a un an, en juin 2007, avec François Ruffin. Et là, hier, avant-hier, je veux dire, Denis Robert a décidé de jeter l'éponge au 16e round, comme il l'a annoncé. Vous l'avez entendu en début d'heure. Et il renonce à toute cette affaire. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site qui s'intitule « La domination du monde ». Et où il explique tout cela en détail, et vous pouvez rejoindre évidemment son comité de soutien qui lui continue le combat. Merci à tous, merci évidemment à Denis Robert, Pascal Laurent, Ernest Bach, Régis Impel, Rémi Malingré, le dessinateur, Jean de Maillard, Claude Angéli du Canard Enchaîné et Dominique Pion d'Attaque. Le site du comité de soutien de Denis Robert, je le répète, c'est http://leSoutien.blogpost.com. À voir le film Les Dissimulateurs, d'une part, et l'affaire Clearstream, expliqué aux ouvriers de chez Diwoo. Deux documentaires de Denis Robert aux éditions BAC Vidéo, Bac Vidéo. Le dernier bouquin de Denis Robert, c'est Une affaire personnelle chez Flammarion en avril 2008. des bouquins plus anciens, Clearstream, l'enquête aux éditions Les Arènes, 2006, et La domination du monde aux éditions Point, 2005. Au passage, une petite note un peu ironique, à noter que l'avocat de Clearstream, qui défend Clearstream et qui donc attaque Denis Robert, est l'avocat de Charlie Hebdo. Donc voilà, la liberté de la presse a plusieurs dimensions. Antoine Viossa et Frédéric Potry étaient à la technique aujourd'hui. Yann Choukaïko, Yann Guyen ont réalisé cette émission. Assisté de Charlotte Perry, Christophe Imbert attend vos messages sur le répondeur de la Bastille au 01 56 40 37 37. Jusqu'à lundi. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Michaël Thébault. Salut.